Classique 21. Classic, you rock.
Classique 21, soundtrack avec Laurent Deboeuf.
Rolling Stones pour cette troisième partie de Soundtrack ce matin et donc End of Fate à l'instant pour ouvrir cette spéciale. Déjà bonjour Laurent.
Bonjour Laurent.
Alors ici on va revenir sur un chapitre qui est parfois sous-estimé de l'histoire des Rolling Stones mais qui raconte énormément de choses sur l'évolution du groupe. Un moment où tout semble vaciller donc pour le band et où tout doit être réinventé et pourtant au milieu de ce chaos donc les Stones enregistrent un album qui capture ce mouvement, ses doutes, cette énergie bizarre, hein, j'ai envie de dire. C'est l'album Black and Blue. Et là, avec une nouvelle édition de luxe, eh bien, je pense que c'est le moment idéal pour s'y replonger. Qu'en pensez-vous?
Ouais, tout à fait. Et ce qui est fou, hein, Laurent, avec ce Black and Blue, c'est que ça ne ressemble à rien de ce que les Stones avaient fait auparavant. Surtout, ça ne ressemble pas à un album au sens habituel de ce qu'on entend pour un album, hein. C'est presque une sorte de journal de bord, une photographie du chaos dans lequel le groupe est plongé. À ce moment-là, on est en décembre 74, les Stones vont s'installer à Musicland, un studio en sous-sol un petit peu particulier, hein, donc à Munich, en Allemagne, dans lequel ils avaient déjà travaillé un peu plus tôt. Et ce studio, il faut savoir, c'est le studio de Giorgio Moroder. C'est là-bas d'ailleurs que quelques mois plus tôt, eh bien, Donna Summer a enregistré un fameux album pilier, hein, du son disco, le fameux Love to Love You Baby.
Ouais,
on s'en rappelle,
avec
évidemment.
Avec sa voix sensuelle.
Exactement. Ouais. Donc, et tout cela va avoir son influence sur cet album des Rolling Stones. Et dans ce studio, ben, les murs vibrent, l'air est humide, on entend les ascenseurs passer d'un côté à l'autre.
Tiens donc.
Les conditions de travail, ouais, sont pas idéales, hein. Elles sont particulières. Et à peine les Stones sont arrivés sur place, eh bien, on sent que quelque chose est en train de se fissurer au sein de la formation. Keith Richards n'est pas là.
Ouais.
Voilà, il s'absente pendant deux soirées consécutives sans prévenir, évidemment.
Il était complètement ailleurs.
Hein. Il était ailleurs, dans les deux sens du terme. Le clavieriste Nicky Hopkins s'évanouit dans le couloir de l'hôtel après une journée interminable. Donc, ça, voilà, il n'y a pas grand-chose qui va. Et puis finalement, bah, le trio Mick Jagger, Bill Wyman et Charlie Watts, eh bien, ils tentent de faire quelque chose à trois malgré tout. Ils improvisent en attendant que quelque chose se passe enfin. Donc voilà, c'est quand même, je crois que le chaos résume bien les choses.
En effet, on est loin de la villa de Nellcote. Hein.
Oui.
Donc, enfin bref, au milieu de tout ça, alors que ce groupe justement ne semble plus savoir dans quelle direction il doit aller, il y a quand même quelques étincelles qui apparaissent. On peut noter Fool to Cry, Crazy Mama, Cherry Oh Baby, et donc les Rolling Stones ici sous cette formule amoindrie, on va dire, eh ben avance quand même.
Ben oui, oui, c'est voilà, il y a un album à sortir, donc il faut quand même assurer. Et puis il y a une autre bombe, hein, qui va exploser dans tout ce marasme. C'est le guitariste Mick Taylor qui va quitter le groupe, donc une décision qui n'est pas vraiment une surprise. Alors on sait qu'il
n'était pas à l'aise. Hein.
Ben voilà, il n'a jamais réussi vraiment à trouver tout à fait sa place au sein des Rolling Stones. Ses idées n'étaient pas assez reconnues par les autres. Il était souvent frustré, épuisé aussi. Et voilà, Taylor, c'était quelqu'un qui a cherché sa place et pourtant qui a fait des merveilles. Des merveilles sur Sticky Fingers, des merveilles sur aussi Exile on Main Street. Il avait un son et un style tout à fait unique, et le perdre, malgré le fait que voilà, il n'a jamais su trouver sa place, c'est quand même une nouvelle gifle pour les Rolling Stones.
Là, si je puis me permettre, c'est quand même une gifle méritée, hein, parce que voilà, il fallait quand même lui laisser sa place.
On est tout à fait d'accord.
Et bon, maintenant, ceci dit, pour trouver sa place entre un Mick Jagger et un Keith Richards, il fallait quand même jouer des coudes.
C'est clair que c'est pas évident.
Donc, alors ici, donc les Stones vont faire quelque chose qu'ils n'avaient jamais vraiment fait. Ils cherchent, ils testent, ils auditionnent, et alors la presse s'empare immédiatement de cela. Le magazine musical NME avait même publié des codes de différents candidats. Donc il y avait Ron Wood, bien, enfin, on y reviendra bien sûr, Jeff Beck, Wilco Johnson, Hank Marvin, donc un des Shadows, qui a été visiblement un des favoris absolus.
Oui, c'est ça. Alors les lecteurs donnaient un petit peu leur cote, hein, par rapport à chaque prétendant, comme ça. Et donc cette période d'audition est absolument, j'ai envie de dire, romanesque, voire rocambolesque, hein, puisque les Stones vont s'installer d'abord à Rotterdam pour faire ses auditions, un studio provisoire tout près des docks, et c'est là-bas avec leur fameux mobile studio stationné juste devant, qu'ils vont faire qu'ils vont tester des musiciens. Alors il y a aussi dans la liste, il y a Rory Gallagher qui va jouer deux nuits sur place. Oui, c'est fou, hein. On imaginait que Rory Gallagher aurait pu être guitariste des Stones. Il y a Jeff Beck qui va passer 48 heures là-bas, Wayne Perkins qui débarque en février, et lorsqu'il retourne à Munich, eh bien il y a aussi donc Wayne Perkins et Harvey Mandel qui vont se retrouver tous les deux en compétition. Charlie Watts, le batteur, dira même plus tard qu'il ne savait plus finalement qui jouait quelle partie lors des auditions, parce qu'il avait tellement de monde qui défile que ça devenait un petit peu le bordel. En plus, on pouvait imaginer qu'il y avait aussi des soirées qui suivaient ce genre d'audition. Et donc, des auditions donc complètement dingues, et aussi le public lui-même est tendu. Qui sera le prochain membre des Rolling Stones? C'est la question qui occupe tout le monde à ce moment-là. En fait.
Évidemment, on connaît la réponse, mais ce qui est saisissant, c'est à quel point tout ce bazar, tout ce chaos, cette tension, ces questionnements se ressentent, hein, sur l'album. Alors, avec ce funk moite, ce reggae doucement assumé aussi, hein, donc sur différentes pistes, il y a le clavieriste Bill Preston, qui déborde de créativité et qui parfois entraîne les Stones hors de leur propre terrain et hors de leur zone de confort.
Mais oui, c'est ça qui donne aussi cette nouvelle couleur à cet album. Et dans ce chaos, eh bien, c'est Ronnie Wood qui deviendra l'heureux élu. Ça, on le sait maintenant, évidemment, depuis autant d'années. Et l'anecdote racontée par Bill Wyman dans son formidable bouquin, parce que Wyman, c'était l'archiviste des Rolling Stones, et le bassiste, évidemment, eh bien, il expliquera que quand Ronnie Wood a eu la nouvelle, il est à Los Angeles, figurez-vous. Il est chez Jerry Buckley, du groupe America. Et voilà, je pense qu'ils passent du temps ensemble. Le téléphone sonne. Il raccroche. Il se tourne vers le membre du groupe America, donc ils sont ses potes apparemment, et il dit tout simplement « I'm a Rolling Stone ». Donc vous imaginez, quoi, recevoir ce coup de fil, vous devenez, d'une minute à l'autre, vous êtes en Rolling Stone, c'est quand même assez magique. Et donc,
C'est un adoubement,
voilà. Ça y est, il a réussi. Et rapidement, Mick et Keith vont comprendre qu'ils viennent de trouver quelqu'un qui, certes, ne jouera pas comme Mick Taylor, parce que Mick Taylor, c'est Mick Taylor, mais c'est quelqu'un qui jouera exactement comme Keith en avait besoin. Parce que voilà, Keith, il fallait un petit peu, un frère jumeau, quelqu'un qui était dans le même esprit. Et donc, Wyman, à nouveau, résumera très bien les choses plus tard en disant que Ron Wood n'était peut-être pas le choix le plus virtuose, mais bien le choix le plus juste. Et ça, je trouve que ça résume très très bien les choses.
Exactement, j'allais le souligner parce que c'est parfaitement ça. Et d'ailleurs, j'en veux aussi pour preuve les déclarations depuis toute cette époque de Keith Richards à propos de Ron Wood en disant qu'il se complète véritablement.
Exactement.
C'est un petit peu comme un tissage. Et c'est vraiment ça, parce que quand on les voit ensemble...
Et sur scène aussi, on les voit. C'est...
Bah, ils s'amusent évidemment aussi comme la roue en foire, mais leur jeu se complète. C'est-à-dire que là où quelqu'un va laisser un trou, l'autre va y rajouter un accord, etc. C'est instinctif. Mais ça fait aussi cette magie, cette couleur sonore des Rolling Stones. Enfin voilà, donc et tout ça nous ramène naturellement au premier titre qu'on va écouter ici, enfin le deuxième en l'occurrence. Donc c'est Hot Stuff, donc c'est un morceau audacieux. Jagger avait expliqué qu'il voulait surprendre, ne pas ouvrir l'album à un rock prévisible, mais surtout ici par un titre auquel on ne s'attend pas vraiment.
Ben non, et c'est vrai que le son est tout à fait différent.
Hot Stuff à l'instant, donc ce truc chaud, hein, on va dire.
Donc là, oui, c'est... Bah oui, ils ont enregistré quand même pas loin de, enfin, dans le même studio que Donna Summer, donc ça reste chaud.
Voilà. Bah oui, il y a ce côté funky disco justement, voilà, qui est très perceptible, et donc Mick Jagger qui en était très friand aussi à ce moment-là. Hein. Alors ici, on va changer complètement d'atmosphère avec Fool to Cry, moment suspendu. C'est une douceur qui contraste avec la période à laquelle il est enregistré.
Et oui, en fait, Jagger expliquera d'ailleurs qu'il avait passé beaucoup de temps quand il écrit ce morceau avec sa fille Jed, et cette proximité avec elle, ces moments de tendresse partagée ont vraiment influencé sa voix, son fameux falsetto, hein, parce qu'il chante
sa voix
très très aiguë, tout ce climat new-yorkais, parce que ça se passait à New York, tout ça. Et puis il faut ajouter qu'il y a une dimension essentielle ici, c'est une balade qui est introspective où finalement Jagger se met vraiment à nu. C'est aussi ça, hein, généralement quand on commence à chanter très haut comme ça, mm-hmm, c'est qu'on dévoile certaines choses. Ça s'est vu souvent dans l'histoire de la musique, c'est un peu faire tomber le voile.
Quoi. Ouais, tout à fait. Et finalement, je me dis qu'on est un petit peu dans l'air du temps parce que c'était l'époque des Bee Gees aussi. Hein.
Ah, complètement. Oui, ça, l'influence est là. Et voilà, finalement, Jagger parle de lui-même. C'est une époque où il se sent un peu perdu, un peu déprimé. Et la chanson raconte d'abord comment sa fille va le consoler, et puis comment sa compagne de l'époque va le rassurer. Les deux lui répètent souvent la même chose, qu'il est un fou de pleurer. Bah oui, c'est vrai que quand on est Mick Jagger et qu'on a tout ce qu'il faut pour être bien dans la vie, être une rockstar, etc., il n'y a pas besoin de se mettre dans des états pareils.
Ah, donc, non, mais c'est une question de sensibilité.
C'est une question de sensibilité. Voilà. Donc voilà, elles essayent en tout cas, ces deux femmes, donc sa fille et sa compagne, de le rassurer. Et donc, il y a quelque chose vraiment de très humain dans ce morceau, assez presque inattendu hein, chez les Stones, hein, de montrer un petit peu la facette plus sensible.
Ouais, tout à fait. Alors, on peut préciser aussi que Fool to Cry est finalement le seul titre de Black and Blue à vraiment entrer hein, dans les classements singles en Angleterre et aux États-Unis. Et il y a aussi une anecdote savoureuse, donc en tournée en 1976, lors d'un concert des Stones en Allemagne, Keith Richards va littéralement s'endormir sur scène alors qu'ils sont en train de jouer le morceau.
Voilà.
C'est fabuleux.
Et en plus, ce qui est dingue, c'est qu'on pourrait se dire, bon, s'il s'endort, c'est qu'il s'ennuie et qu'il n'aime pas ce morceau-là. Au contraire, il adorait justement quand Jagger prenait cette voix sol. Et il l'encourageait à aller vers ça. Mm-hmm. Mais bon, voilà, je pense qu'il avait un petit peu consommé trop de choses.
On ne sait pas, ouais, voilà. Bref, nous, on se replonge avec beaucoup de plaisir d'ailleurs dans ce morceau.
Working all night long. Put my daughter on my knee. And she said, Daddy, what's wrong? She whispered in my ear so sweet. You know what she said? She said, thank you.
the 7 day, my eyes were all aglaze. We've been 10,000 miles, we've been in 15 states. Every woman seemed to fade out of my mind. Some friends of mine in the bus stand down the road. Been a lonely night at the Memory Motel. You're just a memory, girl. Just a memory. And you used to mean so much to me. You're just a memory, girl.
On a eu Fool to Cry tout d'abord, et puis à l'instant Memory Motel. C'est aussi un morceau qu'on a pu retrouver en live dans d'autres sessions de concert hein, par la suite, etc., etc. Très très beau morceau aussi, hein, ceci dit.
Ouais,
alors, ce qui est passionnant avec cet album Black and Blue, bon, déjà tout ce qu'on a raconté, mais c'est la façon dont il a été reçu, parce que les critiques ne savaient pas trop quoi en faire, ni même quoi en dire.
Oui, en fait, ils étaient un peu perdus. Hein. L'album était tellement inhabituel pour les Rolling Stones, tellement décousu à certains moments, que certains critiques se retrouvent complètement désemparés, en tout cas lors des premières écoutes, notamment Lester Bangs, hein, qui est un critique connu parfois pour ses critiques très tranchantes. Il va écrire dans le magazine Cream que c'est un album, accrochez-vous, il n'est pas très gentil, insignifiant.
Oui.
Presque de la musaque pour dentiste. Hein. Vous savez, les genres de musique qu'on passe chez le dentiste
ouais,
en
ouais,
attendant.
Ouais, ouais.
C'est pas assez... Puis finalement, il finira par se rétracter, retourner à cet album, changer son avis, y s'y attacher et à adorer finalement cet album. Donc c'est un peu les premières écoutes qui étaient déstabilisantes, et puis d'autres grands noms de la presse de l'époque vont l'accueillir heureusement plus positivement dès le départ, mais la surprise clairement sera au rendez-vous. Mick Jagger dira plus tard que l'album, bah lui, il le trouvait pas très bon. Ça c'est,
ouais.
C'est un avis. Par contre, quelques années plus tard, avec le temps, avec le recul, il finira par quand même dire qu'il y avait des bonnes choses sur cet album, et Keith Richards, lui, tout à son contraire, eh bien, est toujours resté fidèle à cet album. C'est un album qu'il adore. Et il estime que certains critiques de l'époque avaient juste pas compris en fait ce que les Stones voulaient. Ils étaient passés à côté, alors que c'est un album que lui adore. Donc c'est assez marrant en fait finalement de voir qu'il y a une implication très importante de Mick Jagger, un peu moins de Keith Richards, et que finalement c'est Keith Richards qui adore l'album.
Bah oui, tout à fait. Mais pour revenir encore une fois hein, sur les critiques, enfin la première critique de Lester Bangs à l'époque, c'est un sentiment. Il faut pas être critique musicale pour avoir réagir de la même manière, parce que c'est déjà arrivé qu'on achète un album parce qu'on aime un titre dessus, puis quand on écoute l'album, ouais, bof.
C'est vrai.
Et puis après, quand on le réécoute et qu'on se met véritablement dedans, eh ben là, on découvre des choses et on l'apprécie encore davantage.
Exactement.
Ouais. On va refermer la séquence ici avec une version live de Brown Sugar qui a été enregistrée en 76 à Earl's Court. Je vous rassure, hein, Keith Richards, là, je pense pas qu'il se soit endormi pendant ce morceau-là.
Non. Et c'est justement une version qui est présente sur les bonus de cette fameuse réédition hein, qui vient de sortir. Et oui, on est à Londres en 76 en pleine tournée Black and Blue. Hein.
Ouais. Voilà, écoutez, merci mon cher Laurent.
Avec plaisir.
Et on vous retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Classique 21, Soundtrack. We'll be right back.
version live à l'instant de Brown Sugar qui avait été enregistrée à Earl's Court, donc à Londres en 1976. Une chanson qui aujourd'hui n'est plus jouée hein, parce que ben, comme elle est très équivoque par rapport à l'héroïne, c'est un sujet que les Rolling Stones on va dire, préfèrent encore éviter aujourd'hui. Enfin voilà, on peut en penser ce qu'on veut. En tout cas, cette chanson a été maintes fois jouée en concert et entre autres aussi lors du fameux festival d'Altamont, ce festival qui avait connu malheureusement une tragédie, hein, et c'est il y a tout un documentaire qui a été posté par Classic 21 sur ce fameux Live of Altamont. C'est un très beau documentaire que je vous invite à voir. C'est très simple, hein, si comme il ne va pas faire très beau aujourd'hui, ben voilà quelque chose qui pourrait justement occuper votre après-midi. Ce documentaire sur le Live of Altamont qui est totalement gratuit et à voir, c'est sur OVIO.
Découvrez d'autres podcasts bien rock'n'roll sur classique21.be.